Lizzie présente Private Eye, une nouvelle de R.J. Ellory, traduite de l'anglais par Fabrice Pointeau. Issue du recueil « Regardez le noir », établi sous la direction de Yvan Faute, lu par Julien Châtelet. Ce n'est que lorsqu'il changea quelque chose à sa routine très prévisible que Raymond White s'aperçut à quel point celle-ci était prévisible. Étant donné la nature de son travail, une plongée infinie dans les entrailles de la nature humaine, les mensonges révélés, les faux-semblants exposés, il était pleinement conscient du fait qu'il avait des ennemis. S'il était complètement honnête avec lui-même, chose qui ne se produisait que très rarement, il savait que même ses amis n'étaient pas dignes de confiance. Ceux-ci faisaient le même métier que lui, du journalisme d'investigation en freelance, et il n'aurait pas hésité à le trahir pour un article. Raymond était un poursuiveur d'ambulance, un chasseur de gros titres racoleurs, un homme condamné à vivre dans l'ombre. Depuis cet endroit, pensait-il, il pouvait plus efficacement mettre en lumière les défauts, les péchés et les crimes, à la fois réels et inventés, des autres. Tout le monde était brisé, il le savait. Mais tous n'étaient pas brisés aux mêmes endroits, et certains l'étaient plus que d'autres. Raymond avait une philosophie, bien entendu, et même si cette philosophie aurait pu être mise en pièces par quiconque serait doté d'un minimum de morale et d'intelligence, elle lui rendait néanmoins bien service. Raymond White savait qu'on ne pouvait pas faire confiance aux autres. Les gens étaient plus souvent mauvais que bons. On devinait quand il mentait car il bougeait les lèvres. Chacun arborait un visage pour le monde, et ce visage était presque toujours un masque. Chacun interprétait la vérité à sa façon. Et la vérité devait simplement être vraie pour soi-même, même si c'était un pur mensonge. C'était aussi simple que ça. Raymond ne devait rien à personne, et il n'attendait rien en retour. Des sales trucs se produisaient, et ils arrivaient à tout le monde. Le public avait soif de ragots, de rumeurs, de scandales et de controverses, et rares étaient ceux qui avaient la force de caractère nécessaire pour étancher cette soif. Raymond la possédait. Et même si nombre de personnes n'auraient pas compris la détermination et le courage qu'exigeait cette vocation, il n'avait pas besoin qu'elles le comprennent. Leur opinion ne comptait pas. En tout cas, Raymond ne doutait pas de la bassesse de l'être humain moyen. On pouvait le qualifier de cynique, de pervers, de tordu. Ça n'avait aucune importance. Il l'avait vu de ses yeux. Il avait sondé les profondeurs de la dépravation humaine. Et celle-ci était sans bornes. Il avait interviewé des violeurs et des assassins, des sociopathes, des pyromanes, des kidnappeurs, des tueurs d'enfants, des nécrophiles et des pédophiles. De la bouche de ces sinistres individus, il avait entendu mille histoires déchirantes d'enfance négligée, d'abandon, de victimisation, de maltraitance rituelle et de violence domestique. Mais ce n'étaient que des justifications, des tentatives pour atténuer et minimiser leur propre responsabilité dans les horreurs qu'ils avaient commises. Tout n'était que bruit et fureur. Mettez un homme en cage et il se jettera contre les barreaux et clamera son innocence. Mais Raymond savait, grâce à sa considérable expérience, que ceux qui protestaient le plus fort étaient les plus coupables de tous. Il avait tout vu, et il ne cherchait pas à faire la paix avec le monde, car celui-ci était noir, ombreux, rempli d'atrocités. Le problème était simple. Le monde était peuplé de gens, et ceux-ci étaient mauvais et fous, et ils empiraient chaque minute. C'était ainsi, et ça le serait à jamais. Pour un homme dont le nom était White, il ne voyait pas grand-chose hormis de la noirceur. La femme de Raymond était la patience incarnée. Elle s'appelait Carole et aimait l'homme dont elle pensait qu'il existait encore parmi les ténèbres et les ombres qui emplissaient son cœur. Elle estimait que tomber amoureux était à la fois un acte du présent et de l'avenir. On tombait amoureux de la personne devant soi, mais aussi de celle qu'on pensait qu'elle deviendrait peut-être. Évidemment, parfois on ne devenait pas cette personne, parfois on devenait meilleur, mais la plupart du temps on ne changeait pas. Rarement peut-être, mais presque inévitablement, on devenait quelqu'un de pire. C'était alors que l'amour était mis au défi. C'était alors que la dévotion et le devoir remplaçaient le désir. C'était le cas pour Raymond et Carole. Elles s'étaient convaincues, tout en sachant peut-être que c'était une illusion, qu'un jour, Raymond échapperait à la noirceur dans laquelle il semblait se noyer. Un jour, le Raymond qu'elle avait rencontré 15 ans plus tôt reviendrait, et elle serait là, à l'attendre. Alors, sa patience serait récompensée. Cependant, quand il se retournait contre elle, quand elle devenait la cible de ses emportements irrationnels, sa conviction flanchait. Raymond avait un tempérament féroce, et bien qu'il ne l'eût jamais frappé, bien qu'il n'eût même jamais menacé de le faire, l'atmosphère engendrée par son imprévisibilité ne faisait qu'empirer. Au cours des 3 ou 4 dernières années, celle-ci s'était continuellement détériorée, et Carole marchait sur des œufs, ne sachant jamais si un simple mot ou geste fissurerait la tension de surface de leur relation. Elle savait que c'était le boulot. Elle savait que c'était la pression liée à son travail. Elle savait qu'un homme ne pouvait traquer les monstres sans, au bout d'un certain temps, en devenir un lui-même. Mais Carole n'était pas fataliste. Rien n'était gravé dans le marbre. Les gens pouvaient changer. Les vies pouvaient changer. Des choses se produisaient et elles n'étaient pas toujours mauvaises. Raymond était un observateur. Il regardait les gens. Il les examinait attentivement. Il se rappelait les noms, les visages et les caractéristiques spécifiques. Parfois, sa capacité à se souvenir des détails les plus banals le surprenait. Néanmoins, c'était un menteur accompli, et la surprise qu'il feignait lorsqu'il était confronté à quelqu'un qui avait été blessé par son travail était tellement convaincante, tellement complète, que même la victime doutait de sa mémoire. Peut-être avait-elle commis une erreur. Peut-être ce Raymond White portait-il simplement le même nom et, en poussant la coïncidence à son paroxysme, ressemblait-il vaguement au Raymond White qui avait détruit sa vie. Raymond savait que, s'il pouvait se persuader qu'une chose était vraie, en convaincre quelqu'un d'autre était un jeu d'enfant. Il voyait les gens pour ce qu'ils étaient. Il voyait au-delà de la façade, derrière le masque, jusqu'au tourbillon intérieur d'émotions pitoyables et superflues. Les gens étaient idiots, et ce n'était la faute de personne, sinon la leur. Raymond n'avait pas de conscience. Il ne souffrait pas d'accès de culpabilité ou de remords. Même quand ses gros titres accablants mettaient à mal la fragile construction de l'existence de quelqu'un, il savait qu'il avait simplement communiqué ce qui devait être communiqué. Si quelqu'un était couvert de honte ou ridiculisé ou anéanti par le scandale qu'il avait rendu public, eh bien soit. Il était le proverbial messager et ne méritait donc pas de se retrouver dans la ligne de feu. Ayant dit tout cela, restait la question de la conservation de soi. Les victimes cherchaient invariablement à trouver une cause à leur rage et à leur désespoir. Même si elles étaient totalement responsables de la situation dans laquelle elles se retrouvaient, elles cherchaient instinctivement à se défausser sur quelqu'un d'autre. Elles tenaient un miroir et ne voyaient pas leur propre reflet. Elles préféraient voir Raymond. Mal avisées, mal informées, parfois tout simplement stupides, ces personnes s'étaient convaincues que la catastrophe de leur vie avait été provoquée par Raymond.